et à Dieu son aide et sa bénédiction. Seigneur Jésus, tu nous as appris que sans toi nous ne pouvions rien faire et nous avons besoin de ta présence. Nous voulons réellement nous mettre à tes pieds, comme le faisait autrefois Marie, pour écouter ta parole, pour t'entendre toi-même nous parler de ton amour, des trésors de ton cœur pour nous. Toi qui venais de ce temple où tout disait gloire et qui a accepté de naître dans cette pauvreté d'une étable pour nous approcher, pour te rendre accessible aux plus humbles, aux plus pauvres. Nous te louons et nous te bénissons et nous te demandons que ce soir nous puissions réellement nous approcher de toi, non pas comprendre simplement des doctrines infiniment précieuses, mais contempler cette personne adorable qui doit devenir l'objet de l'affection de nos cœurs en tout temps et à toujours. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous continuons notre thème sur ces trois vocations prophétiques et cet après-midi du 12 décembre 1981, nous arrivons à notre deuxième et dernier exposé sur la vocation d'Ésaïe. Nous vous avons demandé de relire le chapitre 6e qui nous présente la vocation du prophète et de lire ensuite les chapitres 52, versets 13 à 53, verset 12 qui nous conduit au sommet de la prophétie d'Ésaïe. Je veux croire que vous avez été bénis simplement en relisant ce chapitre-ci, et que dans cette seconde lecture, vous aurez trouvé des choses infiniment précieuses que vous n'aviez pas aperçues dans votre matinée. En étudiant ce matin la vocation prophétique d'Ésaïe, nous avons souligné que le contenu de la prophétie était plus important que le prophète lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que remarquez qu'il y a eu des prophètes qui n'étaient pas réellement des hommes de Dieu, mais qui pourtant ont dû exprimer des paroles de Dieu. Lequel, par exemple? Balaam. N'est-ce pas? Voilà un homme, si vous lisez ce qu'il a dit, eh bien, c'est réellement la parole inspirée de Dieu, alors que lui-même n'était pas avec Dieu. Mais il a dû être la bouche de Dieu pour bénir Israël, alors que Balak l'avait payé pour le maudire. Donc, ne donnons jamais trop d'importance à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas une importance aux yeux de Dieu. J'aime beaucoup cette expression que vous trouvez dans une version bien littérale de l'Écriture au sujet du prophète Agé. Il est dit « Agé, le messager de l'Éternel, parla par le message de l'Éternel ». Au fond, le messager est dans le message, et le message dans le messager. Mais on ne peut pas dire ça de Balaam. Balaam n'était pas dans le message. Il exposait un message qui était vrai, mais lui n'était pas
dans le message. Et c'est là toute la différence. On peut enseigner, on peut être docteur en théologie, et on peut enseigner la théologie, les vérités concernant Dieu et le Seigneur, sans être dans le message. Et de là vient toute la différence que les foules remarquaient bien entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des scribes. Je l'ai souvent souligné, l'enseignement de Jésus et l'enseignement des scribes n'étaient pas différents quant à la doctrine. Quand il fallait résumer les commandements de Moïse, Jésus les résumait en deux commandements, et tout docteur de la loi, quelque peu intelligent du temps de Jésus, résumait les commandements de la même manière, de sorte qu'il n'y avait pas différence au fond dans l'enseignement de Jésus d'avec les enseignements de Moïse. Mais pourtant la foule disait: il nous parle avec autorité, mais pas comme nos scribes. Alors, quelle est l'autorité? Ben, l'autorité, c'est de vivre ce que l'on prêche. La doctrine de Jésus, c'était sa vie, et sa vie, c'était sa doctrine. Voilà l'autorité. C'est pas d'avoir des nouvelles lumières, ou de se croire spécialiste dans un domaine ou dans un autre. Nous croyons aux dons spirituels, mais nous avons peur de ceux qui pensent se spécialiser dans l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre de ces choses. Pratiquons nos dons, c'est-à-dire soyons disponibles, mais ne nous vantons pas d'avoir tel ou tel don. D'abord, celui qui a un don n'a pas besoin de le dire, on le voit. Ça, c'est très clair. Eh bien, que le Seigneur nous garde dans la plus grande humilité, et que nous nous souvenions de la menace terrible de la lèpre. Et nous en parlions avec un ami dans un entretien particulier tout à l'heure. On comprend aussi pourquoi Paul ne s'est pas regimbé contre les chardes, car il nous dit bien que, à cause des révélations extraordinaires qu'il avait eues lui-même, pour ne pas s'enorgueillir, Dieu avait permis qu'il soit atteint d'une écharde dans la chair. Et il a pensé à un moment donné, le cher Paul, que s'il était délivré de cette écharde, il pourrait mieux servir le Seigneur. Et le Seigneur lui a montré que c'était dans cette faiblesse dans laquelle il le tenait que se trouvait réellement sa puissance. C'est quand on se confie entièrement au Seigneur, ne se sentant jamais en forme nous-mêmes, mais en disant: bien Seigneur, il y va ta gloire, alors emploie-moi. Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien, mais possède-moi dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Et c'est alors que le Seigneur peut intervenir quand nous ne sommes rien et que lui devient vraiment tout pour nous. Donc, je souligne cette vérité que la prophétie est plus importante que le prophète lui-même. Ainsi, sur Ésaïe, nous savons juste ce qui est essentiel que nous connaissions. Le nom de son père, donc c'est bien un homme de ce monde, de cette terre, il y a une famille. Il vient d'une famille de la terre. On a vu que c'était aussi un homme marié, que sa femme était prophétesse, que lui avait deux enfants, donc on peut avoir une vocation en étant marié et en ayant des enfants. Et en même temps, nous avons considéré le temps où il vécut et exerça son ministère. Nous sommes renseignés sur ces quelques 60 années du ministère du prophète. Et si nous avons osé dire que Ésaïe était un grand prophète, c'est donc bien à cause de son message et non pas pour ce qu'il pouvait être en lui-même. Et une fois de plus, je souligne que la prophétie, c'est la révélation des plans de Dieu à ses enfants pour tous les âges. Comme le dit Paul au chapitre 15 des Romains, au verset 4, tout ce que contient l'Écriture ou l'Ancien Testament a été écrit pour servir pour notre instruction, afin que par la consolation que nous donnent les Écritures, donc les prophéties aussi, nous ayons de l'espérance. Et voyez-vous, dans l'Apocalypse, il y a une bénédiction particulière pour ceux qui veulent lire les prophéties, pas seulement le livre de l'Apocalypse, mais la prophétie en général, qui, comme je vous le disais, comprend au fond le tiers des Écritures. Il est dit « Bienheureux celui qui lit, celui qui comprend et celui qui garde, qui met en pratique les prophéties de ce livre. » Vous ne devriez donc pas être étranger à ce message prophétique. Et la clé du message prophétique, c'est l'Esprit de Jésus, comme il l'est dit dans Apocalypse 19, qui est l'Esprit de la prophétie. Donc, la prophétie, elle est toujours actuelle pour nous. Même si elle a été annoncée dans un autre temps, et si elle nous révèle les choses aussi futures, il y a toujours une application que nous pouvons faire à notre temps et dans nos circonstances. Parce que nous le savons très bien, les mêmes causes produisent aussi les mêmes effets. Et si vous reprenez la lecture du chapitre 1er d'Ésaïe, bien, vous pouvez en faire une application au monde actuel, 1981, fin du 20e siècle de la chrétienté, et vous pouvez y voir une physionomie du monde, et puis aussi, dans la deuxième partie, une image du témoignage dit chrétien. Non pas simplement de ce qu'était Israël, mais de ce qu'est ce qui prétend être le nouvel Israël, mais qui n'est en fait que la chrétienté, qui s'en va vers l'apostasie et que le Seigneur vomira de sa bouche. Et quand vous lisez ces versets du chapitre 1er d'Ésaïe, vous avez vraiment l'impression que le Seigneur, qui a pourtant donné toutes ses instructions pour rassembler Israël dans son temple, on dirait que Dieu a la nausée de tout cela, même de ses propres institutions. Parce que si votre cœur n'est pas dans ces choses, n'est pas avec le Seigneur, si vous n'avez qu'une profession extérieure, si c'est simplement la lettre qui vous conduit, eh bien, cette lettre, elle tue. Et il faut l'Esprit qui vivifie. Sans cela, une chose même bonne, dans son origine, devient mauvaise. Une chose sainte peut devenir profane, suivant l'Esprit que vous y mettez. Les prophètes étaient choisis par Dieu, et nous avons vu la vocation d'Ésaïe, et je vous ai demandé de relire ce chapitre 6, car c'est réellement dans ce chapitre 6 que nous voyons le commencement du ministère d'Ésaïe. C'est ce qui a déterminé, au fond, son ministère. Il y a des chapitres qui précèdent, mais ce n'est pas dans un ordre chronologique. Mais ce qui a fait d'Ésaïe le prophète, l'homme saisi par Dieu, c'est la vision qu'il a eue de la gloire du Seigneur. C'est la révélation de sa personne. Le secret de la puissance unique, on peut le dire, du livre d'Ésaïe, réside donc dans cette vision qui nous est racontée au chapitre 6. Et c'est cette vision qui changea la face de toute chose pour le prophète. Désormais, il contemple tout dans la lumière de cette gloire. Vous pouvez lire depuis la première page à la dernière même quand il est parlé de jugement, il reste toujours cette gloire du Seigneur qui finalement va triompher. Vous pouvez faire là un parallèle avec l'apôtre Paul. Paul, lui aussi, il a eu une vision du Seigneur. Et c'est cette vision du Seigneur qui a absolument bouleversé la vie d'un certain Saul de Tarse. Qui peut dire dans le chapitre 15 des Corinthiens, « Mais n'ai-je pas vu le Seigneur ?» C'est ça qui a changé sa vie. « N'ai-je pas vu le Seigneur ?» Et quand il doit raconter sa conversion, eh bien, il ne raconte pas que, oui, après avoir été à l'école de Gamaliel, où il a appris tous les préceptes du judaïsme, et spécialement de la secte des pharisiens, il aurait fréquenté des apôtres qui l'auraient enseigné. Non, il dit, j'étais contre cette secte, j'étais contre cette doctrine, mais voilà, sur le chemin de Damas, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Il a vu le Seigneur. N'ai-je pas vu le Seigneur? Et cette vision a déterminé une orientation toute nouvelle chez ce Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul, si j'osais dire ainsi, le Moïse du Nouveau Testament. Et j'aimerais aussi que nous relisions pour bien nous pénétrer que ce que je vous dis là n'est pas mes propres pensées, mais que nous relisions dans Jean 12, verset 37e, je n'ai pas peur de me répéter, car comme le dit Paul, vous redire les mêmes choses ne m'est pas pénible, c'est votre sûreté. Malgré tant de miracles, c'est Jésus qui est à la fin de son ministère, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est ce que vous avez lu maintenant cet après-midi dans le chapitre 53. Aussi ne pouvaient-ils croire, ainsi là nous avons la cause de leur incrédulité, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais pourquoi est-ce que Dieu a aveuglé leur cœur? Parce que leur cœur n'était pas droit devant Dieu. Et quand notre cœur n'est pas droit devant Dieu, Dieu permet qu'il s'endurcisse. Et quand nos yeux voient la vérité et ne suivent pas cette vérité, il permet que nous nous illusionnons, que notre vue même soit faussée et que notre oui aussi, soit corrompu. Si vous avez des yeux, c'est pour voir. Est-ce que le Seigneur vous a montré quand c'est blanc, c'est blanc. Mais nous, nous sommes des gens qui aimons mettre le blanc avec le noir. Et qu'est-ce que ça donne? C'est gris. Alors on voit gris. Non, c'est du gris-gris. C'est toujours gris. Parce qu'on ne sait plus faire la différence entre ce qui est sain et ce qui est profane, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Nous sommes pour le mélange. Et nous pensons que là, comme ça, nous tenons le juste milieu. Voyez-vous, c'est tout ou rien. Appeler le bien bien et le mal mal. Et le Seigneur, alors, vous donnera plus de lumière. Je ne peux pas recevoir plus de lumière si je ne marche pas déjà dans la lumière qu'il m'a donnée. Nous sommes des enfants de lumière. Et si je ne mets pas en pratique ce que le Seigneur m'a déjà fait connaître, il ne me révélera rien de plus. Or, justement, le Seigneur voudrait nous en révéler davantage. Vous croyez que l'on est arrivé, que l'on sait tout? Paul disait, mais moi je voudrais encore le connaître, lui. Et il disait cela au fond de sa prison romaine, quelques mois seulement avant sa mort. Il veut encore le connaître. Il dit, moi je ne suis pas arrivé au bout de la course. Je cours, je cherche à le saisir. Et plus vous avancez, plus vous voyez les perfections du Seigneur, plus il devient vraiment l'objet de votre cœur, et plus vous avez une force pour laisser le monde, pour vous détacher des choses de la terre. Et vous savez, je crois que réellement, nous devrions commencer à demander au Seigneur qu'il nous détache des choses de la terre. Parce que si nous ne voulons pas nous détacher des choses de la terre, il faudra que les anges viennent nous tirer, comme autrefois Lot, pour sortir de Sodome, pour qu'au moins nous soyons sauvés comme au travers du feu. Parce qu'on veut quand même être des sauvés. Mais si nos cœurs sont attachés à ces choses de la terre, la maison va brûler, chers amis. Les incrédules, les athées le savent que la maison va brûler. Alors, puissions-nous être détachés de tous ces objets qui tiennent encore tant de place, pour que le Seigneur soit réellement devant nous, devant nos yeux, puis que nous puissions lui dire, oh viens Seigneur Jésus, non pas pour qu'on soit délivré simplement des souffrances qui viennent sur ce monde, mais pour que lui ait enfin le fruit du travail de son âme, comme vous l'avez lu, et qu'il en soit satisfait. Une des grandes peines qu'avait mon père, c'est que lorsqu'il parlait du retour du Seigneur, il avait toujours l'impression qu'il y en a, comme le disait un de mes amis, qui trouvait qu'il charriait, pensait que le Seigneur pouvait revenir dans sa vie, de son vivant. Il ne fallait quand même pas voir les choses comme ça, il ne fallait pas être pessimiste, alors que c'était la joie de mon père de penser que le Seigneur allait revenir. Et pour certains, c'était presque une mauvaise nouvelle. Pour quelle raison? Mais parce que on est encore bien attaché à ces choses de la terre, puis on ne connaît presque rien des choses du ciel. On n'a pas visité les aimables demeures de la maison du Père. On ne connaît pas ces places qu'il nous a préparées. Alors que pourtant, Paul dit, mais si vous avez été ressuscité avec Christ, pensez aux choses qui sont en haut, affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Et Jésus avertissait, il disait, mais quand je vous parle des choses terrestres, si vous ne croyez pas, quand je vous parle des choses célestes, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et bien souvent, le Seigneur ne peut pas du tout nous parler des choses célestes, on n'est pas même capable de comprendre les choses terrestres et de nous détacher de ces choses. Alors, demandons au Seigneur que réellement, nous ayons Jésus devant nos yeux. Et souvenons-nous de ce passage qui est tellement important dans Jean 12, verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, c'est beau, et qu'il nous donna des doctrines. C'est ça que vous avez dans mon Bible? C'est tellement beau, ça, simplement ça, qu'il parla de lui. C'est ça. Ésaïe vit sa gloire, il nous a parlé de qui? De lui. Alors, quand vous lisez Ésaïe, recherchez, non pas des doctrines, simplement, mais recherchez sa personne. C'est lui qui est notre avenir et qui est notre gloire. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Vous voyez qu'il y avait déjà des exclusions de ce temps-là. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est quand même triste, ça. Bien que Dieu nous donne d'aimer la gloire de Dieu, puis laissons toute chose entre ses mains. J'aime tellement ce verset dans Jean 9. Vous le connaissez, quand on eut chassé l'aveugle né de la synagogue, il est dit, Jésus le retrouva dehors. Jésus le retrouva dehors. Jésus le retrouva dehors. Et avec Laodicée, l'église de Laodicée, il le croyait dedans, et Jésus se trouvait dehors. Hein. Il se croyait riche, enrichi, n'ayant besoin de rien, et Jésus est dehors. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alors, soyons de ceux pour lesquels le Seigneur suffit. Alors, nous pouvons suivre maintenant l'impression que fit sur Ésaïe tout ce qu'il vit et tout ce qu'il entendit à travers toute sa prophétie, dont le chapitre premier que vous avez lu ce matin était comme un résumé. Je soulignerai ici trois points cet après-midi, que vous pouvez retrouver à travers toute sa prophétie, mais qui viennent de ce chapitre 6. Le premier point, il a une notion écrasante du péché et du jugement de Dieu. Et cela, vous devez le retrouver, hein, parce qu'on ne sait plus ce qu'est le péché aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Ça ne peut plus pécher. Tout est permis. Pourvu qu'on s'aime. Il n'y a pas de problème. Hein? Il y a même des chansons là-dessus, je crois. Mais Ésaïe, lui, dans toutes ses pages, vous verrez qu'il a une notion du péché. On devrait lui dire, mais Ésaïe, tu ne pourrais pas prendre des synonymes. On a marre de t'entendre parler de péché. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il pourrait prendre pour nous parler du péché? Les complexes. On nous demande ça quelquefois. Écoutez, ne parlez pas de péché, ça passe pas dans le public. Alors, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Ou alors, ne soyez plus prédicateur. Et puis, du jugement de Dieu. Mais là, il est en retard. Il parle encore du jugement de Dieu. Oui, il a une notion du jugement de Dieu. Et il voit ce jugement de Dieu venir sur le monde. Et c'est quand même effrayant de penser qu'aujourd'hui, ce sont des gens du monde, même des athées, qui se disent, ça ne peut plus aller, il y a trop d'abominations. On ne croit pas même encore en un Dieu juste et saint. Et pourtant, ils ont un malaise, ils disent, ça ne peut plus aller, il va y avoir une catastrophe. Et quand on parle de catastrophe, eh bien, si on est dans la catastrophe, on est catastrophé. Et eux-mêmes pensent qu'ils vont être catastrophés, c'est-à-dire qu'ils seront jugés, parce que être catastrophé, c'est quand même passer aussi par le jugement. Vous aurez ça à travers tout le livre d'Ésaïe. Deuxième chose, donc, notion écrasante du péché et du jugement de Dieu. Deuxième chose, une notion pénétrante de la puissance et de la sainteté de Dieu. Cela, vous pouvez trouver cela à toutes les pages. Et j'aimerais avoir du temps pour lire avec vous, puis qu'on prenne les versets qui nous parlent de cette puissance, où Ésaïe souligne cette puissance. Et alors, c'est spécialement dans la deuxième partie d'Ésaïe, le livre des consolations, que vous voyez cette puissance qui est exaltée par Ésaïe. On se trouve un petit peu comme dans le livre de Job, quand Dieu parle à Job et puis qu'il le questionne. Au chapitre 40, au verset 12e, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ?» Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, même les États-Unis et l'ours. Vous y croyez?
C'est tonique de lire ces dernières nouvelles. Hein. On est toujours écrasé par ces superpuissances. Toutes les nations, donc y compris aussi bien les capitalistes que les marxistes, sont devant lui comme un rien. Puis nous, on est aplatis devant les uns ou devant les autres. Et ne sont pour lui que néant et vanité. Lisez la Bible, au lieu de lire les journaux seulement. Je ne vous dis pas de ne pas les lire, les journaux, mais enfin, lisez les dernières nouvelles dans l'Écriture. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? Puis alors, il y a l'histoire de l'ouvrier qui fabrique son idole. C'est très drôle. Vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Et vous verrez, vous vous amuserez bien en lisant la parole. Il y a des choses vraiment qui sont toniques et qui nous remettent en selle. On ne s'ennuie pas quand on lit les Écritures. Et dans le chapitre 41, alors au verset 21, vous verrez comment Dieu parle au sujet des idoles par son prophète. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, verset 21 du chapitre 41. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'ils les produisent, qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Eh bien, annoncez-nous l'avenir. On cherche tellement à connaître l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et que nous le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Vous vous rendez compte? Oui, c'est une abomination que de se complaire en vous. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions. Et longtemps d'avance pour que nous disions, c'est vrai. Et alors vous voyez, dans la théologie moderne, enfin ce qu'on appelle la haute critique, ils veulent justement nous faire croire que tous ces chapitres-là, depuis le chapitre 40, ce n'est plus le véritable Ésaïe qui aurait dit cela, mais ce serait un auteur qui aurait vécu au temps de l'exil à Babylone, qui aurait écrit ces choses, parce que il fait des descriptions tellement exactes et historiques réellement, n'est-ce pas, des faits, qu'on dit c'est pas possible qu'il ait vu ça à l'avance. Et puis, ce n'est pas possible qu'on ait su un siècle avant sa naissance que le roi de Perse s'appellerait le chat. Cyrus, hein? Alors on est, mais ce n'est pas possible que nous sommes des imbéciles. Parce que, alors, ce n'est pas seulement là qu'il nous faut dire que nous ne croyons pas à cela. Parce que, est-ce que vous connaissez un homme qui devait être un roi et dont on a annoncé 300 ans à l'avance son nom, 3 siècles à l'avance, un certain Jéroboam qui est le premier roi des 10 tribus qui a élevé un autel et puis qui veut sacrifier sur cet autel et puis tout à coup un homme de Juda qui arrive et qui dit autel, autel et puis qui annonce qu'il y aurait un jour un roi qui s'appellerait Josias, qui ferait déterrer les ossements des sacrificateurs de Jéroboam et qui les ferait brûler sur l'autel. Jéroboam, fou de colère, étend la main pour qu'on dise qu'on arrête le prophète de Juda, et qu'est-ce qui arrive à sa main? Il ne peut plus la retirer, elle est toute sèche, une branche morte. Il demande au prophète de lui aider, prie pour que ça revienne. Puis le prophète prie, puis voilà, pauvre Jéroboam qui retrouve la fonction de son bras. Est-ce que c'est vrai la prophétie? Est-ce que vous y croyez?
Là, ou bien on croit, et on croit à tout ce que l'Écriture nous dit, mais on ne commence pas à faire un triage. Parce qu'alors, il y a aussi dans la première partie d'Ésaïe des prophéties, concernant qui, par exemple? La Vierge, la mère bénie de notre Seigneur, dans le chapitre 7. Ça serait donc dans le premier Ésaïe qu'il est dit qu'une jeune fille concevrait, ou une vierge, qu'elle deviendrait enceinte. C'est dans le chapitre 7. Mais enfin, je sais bien qu'on y croit, on n'y croit même plus. Je connais bien des théologiens catholiques qui ne croient même pas à la virginité donc de Marie avant l'enfantement de Jésus. On nous explique ça d'une autre manière maintenant. On reste quand même catholique, on reste quand même croyant, mais enfin, on a des explications parce qu'on ne peut pas croire au miracle. Et si vous ne croyez pas au miracle de l'Ancien Testament, vous ne croirez pas non plus au miracle du Nouveau Testament. Et puis vous en arrivez jusqu'à nier la résurrection de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un me disait, mais c'est quelqu'un qui me touche assez près, mais au fond, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait deux Ésaïe ou trois Ésaïe? C'est la parole de Dieu, moi ça ne me touche pas. Je crois quand même que c'est la parole inspirée de Dieu. C'est trop facile. Parce qu'on ne veut pas avoir de discussion. Hein. Je ne suis pas pour les discussions. Mais je sais qu'il nous faut tenir ferme sur certaines choses. Et qu'il faut savoir résister, comme Marie Durand l'écrivait dans la tour de Constance, là en France. Savoir résister à certaines choses. Parce que, qu'est-ce qu'il arrive? Si vous niez l'unité du prophète Ésaïe, eh bien, la négation de cette unité, elle a ses racines dans le refus de reconnaître la valeur surnaturelle des prédictions prophétiques. On ne croit pas que Dieu puisse révéler à l'avance certaines choses à des hommes et que ces hommes aient pu nous les dire. C'est pas possible. Mais alors on croit à l'astrologie. Hein? Et on va chez toutes les bonnes femmes, les tireuses de cartes, et diseuses de bonnes aventures. Vous voyez, il y a une puissance d'erreur, comme l'a annoncé saint Paul, qui vient sur le monde. Parce que les gens n'ont pas l'amour de la vérité, ils croient le mensonge. Ils sont très intéressés aux choses à venir, mais ne croiront pas que ces choses à venir sont écrites dans la parole. Et le drame pour moi, et spécialement au Québec, maintenant qu'au Québec, on a la possibilité de lire la Bible, avant c'était interdit, il ne fallait pas lire la Bible, c'était un livre qui était proscrit. Maintenant que la Bible, elle est partout, on vous dit simplement, oui, mais vous savez, il ne faut pas prendre au sérieux tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament. C'est un amas de matériaux hétéroclites qui ont été mis ensemble et on ne peut pas même y trouver Jésus, n'est-ce pas? On ne peut pas même y trouver Jésus dans l'Ancien Testament. Et vous savez, ça a ruiné le protestantisme dans nos vieux pays. Le protestantisme, un certain protestantisme, disons, qui est tombé dans le rationalisme. Et moi, ce qui m'afflige, c'est de voir qu'avant, même mon propre père me disait, heureusement qu'il y a encore l'Église catholique pour maintenir certaines vérités. Il ne pourrait plus le dire, parce que maintenant, eh bien, cette théologie moderniste, soi-disant moderniste, s'infiltre dans l'Église romaine aussi, et puis on arrive à une espèce de consensus, mais de consensus dans la négation. Alors, quand on dit que je suis œcuménique, bon, j'ai un certain œcuménisme, mais je ne suis pas œcuménique à toutes les sauces. Et je le dis très ouvertement. Je crois à l'inspiration des Écritures. Et si on me demande dans n'importe quel lieu, eh bien, on doit m'accepter tel que je suis. Quitte à me donner des coups de pied au derrière après. C'est aucune importance, on est tanné. Alors, et puis on doit s'attendre à ne pas être reçu. Tout homme qui apporte un message prophétique sera incompris et aura des souffrances à endurer. Alors on ne peut pas vouloir une situation meilleure que le Seigneur. Donc, ne dites pas, mais moi, ça n'a aucune importance, que
les deux ou trois Ésaïe. Ça a une importance. Parce que maintenir la négation de l'unité de ce livre, ça affaiblit quelle autorité aussi ? Du Nouveau Testament. Parce constamment, dans le Nouveau Testament, il est dit, au sujet des textes d'Ésaïe, que c'est le prophète Ésaïe. Alors, on nous dit, oui, mais vous comprenez, Jésus n'avait pas nos connaissances. Hein? Il a participé aux erreurs de son temps. Et alors, j'ai entendu des pasteurs me dire ça. Et pourquoi j'ai pas fait la théologie dans ces écoles-là? Eh bien, c'est uniquement parce qu'on nous disait, dans notre pays, même le doyen, il disait, vous savez, on veut être tout à fait droit, il se peut qu'après vos études, vous ayez perdu la foi. Alors, je veux bien que des études de théologie éprouvent notre foi, ça c'est juste, mais nous la fassent perdre, c'est quand même pas pour ça qu'on étudie l'écriture, hein. C'est pour être affermi, pour avoir des convictions, pour avoir une science biblique. Mais si c'est pour nous démolir, et il y a des années, j'étais un jour à l'université de Fribourg, invité par un dominicain, et il me raconte dans sa cellule, après qu'on ait dîné ensemble, au réfectoire avec tous les pères, il y a bien longtemps que ça, c'était en 1942 ou 43, j'étais encore aumônier à Lézin, en Suisse, et il m'avait invité, après avoir lu un de mes premiers livres, et il disait, mais c'est pas possible, vous croyez tout. Et il m'a raconté que lui, il était protestant, il faisait ses études de théologie à Genève, dans sa jeunesse, et il m'a dit, mais j'assistais à l'enterrement du protestantisme dans nos facultés de théologie. Et au bout d'une année d'études, eh bien, j'étais tellement déprimé qu'un camarade m'a dit, tu sais, il y a des dominicains qui viennent de Paris et qui viennent faire des conférences. Et il m'a dit ouvertement, j'ai trouvé Jésus-Christ dans l'Église catholique. Moi, j'étais très humilié parce que je me suis dit, mais comment s'est-il fait que dans une ville comme Genève, où il y a bien des milieux évangéliques aussi, personne ne s'est trouvé sur le chemin de cet homme pour lui montrer qu'il y avait autre chose, qu'on pouvait croire autre chose. Alors, ne nous jugeons plus les uns les autres. Hein, et louons le Seigneur que d'une façon ou d'une autre, quelqu'un arrive à la connaissance de Jésus-Christ. Quelqu'un arrive à la connaissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand on est arrivé à lui, parce que le Père nous a attirés jusqu'à lui, qu'est-ce qu'il fait Jésus-Christ? Il nous conduit à qui? À une secte? Au Père. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand on est... Il y a peut-être plusieurs chemins pour aller à Jésus-Christ. Vous pouvez même passer par les témoins de Jéhovah pour aller à Jésus-Christ. Vous pouvez passer par différents chemins. Vous pouvez même passer par les bouddhistes pour arriver à Jésus-Christ. Mais une fois qu'on arrive à Jésus-Christ, il nous conduit au Père. Il y a un seul chemin pour être conduit au Père. Et alors, une fois qu'on est dans le Père, qu'est-ce qu'on est les uns pour les autres? On est des frères, des sœurs. On habite ensemble, dans le cœur du Père. C'est quelque chose de merveilleux. Et c'est cela que nous devons apporter comme témoignage à ce monde. Pas qu'on vienne toujours nous dire, alors chers frères, vous êtes bien des nôtres. Des nôtres. Alors quand on me dit ça, je fais l'âme. Des nôtres, je suis des siens. Pourquoi est-ce qu'on veut tout de suite nous mettre une étiquette? Sans ça, c'est la suspicion. Nous sommes des siens. Et le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Ou, selon notre traduction, ceux qui lui appartiennent. Et quand on appartient au Seigneur, on s'appartient aussi les uns les autres. Et Dieu fait habiter ainsi en famille ceux qui étaient seuls. Alors, l'histoire de Cyrus, dont vous trouvez le nom, donc au chapitre 43, 45,
du livre d'Ésaïe, il est donné un siècle à l'avance. Est-ce que c'est difficile pour Dieu, qui nous dit plusieurs fois qu'il nous connaît dès le sein maternel? L'existence du monde. C'est quand même fantastique. C'est ça que vous devez y croire. Préconnu dès avant la fondation du monde. Nous avons eu une place dans le cœur de Dieu avant de créer le monde. Et il nous a prédestinés à être conformes à quelle image? À l'image de son Fils bien-aimé. Votre origine, elle vient d'où? De l'éternité, du cœur de Dieu. Et où retournez-vous? Au cœur de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux et de tonique contre les dépressions nerveuses. Quand on saisit ces choses, cette largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, sa hauteur et sa profondeur. Et voyez-vous, si vous lisez un livre profane, l'historien Joseph raconte justement que Cyrus, c'est en lisant le prophète Ésaïe et en s'apercevant que Ésaïe, 100 ans avant, donc un siècle avant sa naissance, avait parlé de lui, qu'il a été bouleversé et qu'il a mis son cœur à la disposition du Seigneur. Ça, c'est Joseph, l'historien juif, qui dit... raconté après l'existence de Cyrus, ça n'a plus aucune force. C'est justement de constater que Dieu l'a connu bien à l'avance, qui a bouleversé Cyrus, un roi païen, qui est devenu dans la main de Dieu l'exécuteur des pensées de Dieu. C'est ça qui est fantastique. Et si Dieu le voulait pour évangéliser le monde, si nous ne le faisons pas comme il le désire, il peut même employer un athée et un marxiste, ce qu'il veut, lui, mais un homme qui lui donnera entièrement son cœur. Dieu n'est pas obligé de prendre ses témoins dans ce qui s'appelle l'Église aujourd'hui. Si l'Église est infidèle à notre honte, eh bien Dieu pourrait susciter du sein du paganisme des gens qui seront détachés des biens de ce monde et qui le serviront avec fidélité et authenticité. Il n'est pas pris par nous. Et son œuvre, heureusement, ne dépend pas de nous et de ce que nous sommes ou de notre fidélité. Alors, nous arrivons maintenant au chapitre 52, verset 13. Vous êtes arrivés donc au point le plus élevé de la prophétie. Ce ne sont plus des événements qui passent sous les yeux du prophète, mais sa foi contemple la personne même du Seigneur. Il a vu le Seigneur et il nous a parlé de lui. Et je voulais juste encore vous souligner au sujet des idoles et de l'humour de Dieu, avant d'entrer dans ce chapitre 53, au chapitre 46, du prophète Ésaïe. Il est dit: Belle s'écroule, Nébo tombe. On met leurs idoles sur des animaux. Ça marche, les idoles, hein, quand c'est sur des animaux. Et sur des bêtes. Et puis, même quand on n'a pas de bêtes, qu'est-ce qu'on fait? On a des épaules. Alors, vous les portez. Et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Et même le bipède. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau, pensez-vous, l'idole va se casser. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge, dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Bien, regardez ces comparaisons. Hein. Ou bien vous êtes porté par Dieu, ou bien vous portez votre Dieu. Et votre Dieu, il est lourd. Surtout s'il est en argent ou en or massif. Que c'est beau la parole. On s'arrête, puis on la repasse dans nos cœurs aussi. C'est quand même vrai. Hein. Quand vous lisez ça, vous dites, c'est vrai. Toutes ces images qui nous sont données pour nous faire comprendre ça, mais soyez pas des imbéciles. Est-ce que c'est ça votre Dieu que vous avez fabriqué, l'ouvrage de vos mains, que vous avez peur pour lui? Ça a des yeux qui ne voient pas. Une de mes petites filles m'a montré une, comment est-ce que vous appelez ça, Barbie, qui cligne de l'œil, là, pour se faire de l'œil, comme ça, on lui presse dans le dos, puis ça fait un clin. C'est génial, hein? C'est attirant. Moi, j'aime mieux le Seigneur. Un regard du Seigneur. Mais vous vous rendez compte, on corrompt jusqu'à nos enfants avec tout ça. C'est ce que le monde fait. Alors, pour qu'on se laisse prendre, on est aguiché par une jeune fille qui sait nous faire un clin d'œil comme ça. Et maintenant, ben, nos petits-enfants, ils voient comment ça se fait. Mais on est dans le monde, hein, qu'est-ce que vous voulez? Il nous faut vraiment avoir des nageoires pour remonter le courant et des écailles pour ne pas nous laisser imprégner par le monde, être réellement des poissons, de bons poissons, comme le dit l'Écriture. Alors j'arrive maintenant à ce 53 d'Ésaïe. Et vous avez dû penser que on ne pouvait pas lire le chapitre 53 d'Ésaïe sans aller chercher une explication qui nous est donnée justement dans l'Écriture, au chapitre 8 du livre des Actes, où nous voyons justement un homme qui est allé à Jérusalem pour adorer. C'est un Éthiopien, l'eunuque de la reine de Candace, celui qui administre tous ses biens, qui a voulu trouver à Jérusalem la vraie religion et qui s'en revient déçu, mais pourtant il a acheté quelque chose qui sera pour lui plus que les trésors de la reine de Candace. Il a le rouleau du prophète Ésaïe et il est en train de lire ce qui y est dit. Mais il ne comprend pas de qui le prophète parle. Alors prenez Actes chapitre 8, nous n'allons pas le lire, mais je vous le cite pour que vous puissiez en faire vous-même la lecture. Versets 26 à 40, et vous verrez combien un serviteur de Dieu, même très occupé et réussissant dans le lieu où il travaille, doit être dépendant de son Seigneur. Si Philippe avait demandé aux anciens des églises qui pouvaient être établies là en Samarie ce qu'il devait faire, on lui aurait dit « ta présence est indispensable. Tu as été en bénédiction au milieu de nous, tu ne dois pas nous quitter ». Mais voilà que le Seigneur lui dit, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Un chemin que je connais bien. Eh bien, va sur ce chemin qui est désert. Mais Seigneur, j'ai des âmes, je suis berger d'un troupeau, il y a plusieurs personnes qui se sont converties, et j'ai des responsabilités. Le Seigneur passe en premier. Il y a des priorités. Est-ce que vous connaissez ça, vous, mes jeunes amis? Que quand on décide, par exemple, que l'on vient à une retraite, bien, c'est peut-être prioritaire, et que ça vaudrait mieux d'arriver à l'heure qu'à une heure du matin. Ce n'est pas un grand reproche que je fais, mais je vous dis qu'il y a des priorités. Vous ne pouvez pas arriver à n'importe quelle heure parce que cela apporte du trouble dans une maison et ce n'est pas toujours un bon témoignage. On dit, mais qu'est-ce que c'est que les gens là, ils viennent quand ça leur chante? Mais on me dira, mais j'ai des excuses, ça n'aurait peut-être pas eu d'allure que je quitte mes amis à tel moment. Mais alors ça avait de l'allure d'arriver à 1h du matin et d'entrer par les cabinets? Vous comprenez? C'est cela qu'il faut savoir choisir. Nous avons fait la retraite précédente sur ce thème, savoir choisir. Hein? La vie chrétienne, un choix quotidien. Quand on a pris une décision et qu'on l'a prise vraiment dans le Seigneur, on cherche à s'y tenir. Ou si on a un inconvénient, on téléphone. C'est un témoignage pour qu'on ne soit pas inquiet au sujet de gens qui n'arrivent pas. On peut toujours se demander, mais est-ce qu'ils se sont perdus, est-ce qu'ils sont tombés dans le lac ou quelque chose de ce genre. Alors mes amis, j'aimerais que vous compreniez bien cela. Notre témoignage, voyez-vous, il est fait de ces petites choses, de ces petits détails. Et dans la vie conjugale aussi, il faut savoir aussi avoir des prévenances les uns pour les autres. Je dis cela en passant et je pense bien que personne ne m'en voudra. Mais sinon, l'écriture, ben, ça sert à quoi? Ça passe à côté. On a eu des bénédictions, on a reçu beaucoup, mais au fond, on ne change pas. On a bien décidé de continuer, de ne rien modifier à notre manière de faire. On veut tout. Non, on ne peut pas tout avoir. Et quand on veut quelque chose, eh bien, on se décide pour cette chose-là et on s'y tient. Quitte à décevoir d'un côté ou d'un autre, mais personne ne vous oblige à venir à une retraite. Mais si on vient à une retraite, eh bien, on cherche à venir à des heures qui soient encore raisonnables. Il peut y avoir, je le dis, des exceptions, mais les exceptions confirment la règle. Et voyez-vous, c'est ça qui m'humilie et qui m'afflige. On nous dit constamment, et on en fait la constatation, des gens du monde qui ne se disent pas chrétiens, qui surtout ne se présentent pas comme des sauvés, ils sont corrects. C'est vraiment, c'est faux. Je ne vous dis pas à tous, mais bien souvent, vous trouvez une correction chez les gens du monde. Ils ont un peu de savoir-vivre. Mais alors, des chrétiens, si nous n'avons pas même, nous, le savoir-vivre, le Seigneur, quand on étudie sa parole et qu'on la laisse nous façonner, comme il est dit, la parole est vivante, opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle nous corrige, elle nous instruit, mais elle nous corrige aussi. C'est comme ça que l'homme de Dieu devient parfaitement accompli et propre pour toute bonheur. Et ce qui a toujours fait mon admiration, moi, c'est de voir un homme qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas eu tous les privilèges que nous avons pu avoir, et qui, à un certain âge, s'est mis à apprendre à lire pour lire la Bible parce qu'il s'est converti au Seigneur et qui a une culture biblique et une sensibilité dans ses manières qui est extraordinaire. La culture biblique, ce que Dieu peut vous apporter par un peu de culture, il vous apporte de la politesse, il vous apporte de la délicatesse, vous avez pu naître ours et puis vous devenez quand même raffiné après ça. C'est vrai que le Seigneur peut transformer même certains traits de notre caractère, parce qu'on se dit, mais est-ce que le Seigneur agirait comme ça? Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne en vous? C'est la vie de Christ. Alors laissons cette vie de Christ s'épanouir et voyons un peu comment lui agissait, comment lui vivait. Et nous agirons de même. Vous avez donc devant vos yeux la personne du Seigneur. Voici mon serviteur prospérera. Il aurait fallu
parler de plusieurs textes qui présentent ce serviteur de l'Éternel. Vous étudierez cela pour vous-même. Et il y a quatre petits tableaux qui nous présentent le ministère du Seigneur. Dans ces chapitres 41 à 57, vous avez des portraits divers du serviteur de l'Éternel, dont le plus magistral se trouve dans les versets que vous avez étudiés. Mais Ésaïe a une vision, donc, lumineuse du Christ et de son salut et de sa souveraineté universelle. C'est le troisième point. Il y a la notion de sa puissance et de sa sainteté, le Saint d'Israël qui revient 23 fois dans son livre, et puis maintenant, ce troisième point, la vision lumineuse du Christ, de son salut, de sa souveraineté universelle. Vous l'avez depuis le premier chapitre. Souvenez, plaidons ensemble. Puis après, vous avez la naissance de Jésus, chapitre 7, verset 14. Les noms qui seront donnés à Jésus, chapitre 9, verset 5. Sa divinité, chapitre 9, verset 5 à 6. Son ministère terrestre, chapitre 8, verset 23. Chapitre 9, verset 1. Chapitre 42, versets 1 à 7, comme aussi chapitre 49 et le chapitre 61. Voici l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. C'est ainsi que Jésus commence son ministère. Puis vous avez alors sa mort décrite dans ce chapitre 53. Et son règne futur, dans plusieurs portions d'Ésaïe, chapitre 2, chapitre 11, chapitre 65, et plusieurs descriptions du règne messianique. Mais, comme je vous le disais, nous voulons nous arrêter encore quelques instants sur sa mort. Parce que ce n'est pas la vie du Seigneur qui nous a rachetés. La vie du Seigneur n'a racheté personne. C'est sa mort qui nous a donné la vie. Avoir simplement Jésus comme modèle de vie ne vous sauve pas. Pour que Jésus soit votre sauveur, vous devez avoir accepté Jésus crucifié. Sans un Jésus crucifié, vous n'êtes pas sauvé. Le salut est dans la mort de Jésus. Oui.
C'est quand même juste tout ce qui est juste, en fait, quand même, tout ce qui est en vie,
c'est quand même pour nous, bien sûr, par amour pour nous, mais ce ne sont pas ces souffrances-là qui nous ont rachetés. Et je vais vous le dire, nous allons étudier maintenant à fond un peu ce chapitre. Donc, d'après ce que Philippe dit dans le chapitre 8 des Actes, c'est bien de Jésus qu'il est question dans le chapitre 53 d'Ésaïe. De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelque autre? Et Philippe, commençant par cette parole que l'eunuque était en train de lire, lui annonce Jésus. Et c'est ainsi que par l'obéissance de Philippe, le premier homme de couleur est converti au Christ et devient un témoin du Seigneur dans cette Éthiopie. Et remarquez que quand vous lirez ce prophète Ésaïe, vous vous souviendrez de ce que vous avez lu dans Pierre, que les anges désirent sonder toutes ces choses. Et comme vous le voyez, les prophètes ont annoncé les souffrances du Seigneur et quoi? Il va annoncer deux choses. Les souffrances du Seigneur, d'abord, et la gloire dont elle serait suivie. Hein? Alors, les souffrances du Seigneur, eh bien, ont été annoncées. Et nous pouvons voir si c'est vrai, si ça s'est passé ainsi. 700 ans avant que cela n'arrive, Ésaïe a une vision de la personne du Sauveur. Mais dans les prophéties, il y a 1500 textes au moins qui nous parlent de sa gloire. Alors, si vous pouvez reconstituer la vie terrestre de Jésus et de ses souffrances d'une façon extraordinairement précise par les textes prophétiques, vous devriez aussi vous intéresser à tous les textes qui annoncent sa gloire, car ce n'est pas encore maintenant. Les gloires qui suivraient les souffrances du Seigneur, on ne voit pas encore cela, mais pourtant c'est annoncé. Et à cette gloire, vous aurez part, si vous avez accepté de mourir dans la mort de Jésus, pour revivre dans sa résurrection. Écoutons Ésaïe. Voici mon serviteur prospérera. Il sera exalté, élevé et placé très haut. Ça vous fait penser à quoi cela? Qu'est-ce qui s'est passé après la croix? Sa résurrection et son élévation dans la gloire. Hébreux chapitre 2. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur, mais c'est la foi qui le voit. Le monde ne voit pas encore Jésus dans sa gloire. Mais ici, au verset 13 du chapitre 52, c'est déjà le Seigneur qui nous est montré dans cette gloire dont nous parle Hébreux chapitre 2. Lui qui était en forme de Dieu, comme dit Philippiens 2, eh bien, il a été élevé et a reçu un nom au-dessus de tout nom, Philippiens 2, verset 11. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Quand le Seigneur est venu à sa première venue comme l'agneau de Dieu pour régler la question du péché du monde, il est apparu dans un corps de chair et il a participé à toutes les faiblesses de notre nature humaine, quoique sans péché. Mais il a réellement revêtu notre corps de chair dans lequel il a souffert. Il a assumé notre humanité. Et l'on disait que Jésus, qui n'avait pourtant que 30 ans, on lui en donnait déjà à peu près 50, tellement après son ministère, il était fatigué. Et vous le voyez aussi dans sa marche, assis sur le puits de Sichar, attendant cette âme qui avait besoin de lui, la Samaritaine. Jésus était fatigué à l'heure de midi. Vous le voyez aussi en quelque sorte exténué comme homme dormant sur la poupe au milieu d'une tempête. Il faut être vraiment las et fatigué pour en être là. Et si vous suivez Jésus dans sa vie, vous le verrez le soir où il institue la Sainte Cène, l'Eucharistie, vous le verrez angoissé et triste jusqu'à la mort. Est-ce que vous pouvez vous représenter ce visage ravagé par l'angoisse mortelle qu'il connaît en pensant qu'il va être séparé de ce Père qu'il a toujours honoré et duquel il a pu toujours dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent, vous me laisserez seul disait-il à ses disciples, mais je ne suis pas seul, le Père qui m'a envoyé est avec moi, et pourtant il sait que dans quelques heures, quand il sera entre le ciel et la terre, le ciel sera pour lui d'airain et la terre sera pour lui de fer, comme l'avait annoncé Moïse lui-même, qui était lui aussi prophète. Eh bien, que nous puissions être bouleversés en considérant la vision d'Ésaïe, qui voit toutes ces phases du Seigneur, qui nous le dépeint dans sa forme humaine, puis qui nous dit « Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations, parce que quand il apparaîtra en Sion pour apporter la délivrance à Israël, selon le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, eh bien, c'est lui qui apportera à son peuple la délivrance. Alors, des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. C'est pourquoi il y aura encore des sauvés à ce moment-là. Car le Seigneur ne condamnera pas ceux qui n'avaient pas entendu. Puis le chapitre 53, « Qui a cru à ce que nous avons fait entendre ? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?» Est-ce que vous avez cru en lisant ce chapitre ? Moi, c'est ce chapitre-là qui a été à la base de ma conversion et de l'assurance de mon salut. C'est depuis ce certain samedi où, à genoux, j'ai lu ce chapitre et que je l'ai laissé pénétrer mon âme, que j'ai eu la paix avec Dieu et que je n'ai plus douté de l'œuvre que le Seigneur avait fait pour moi. Ce n'est pas par un texte du Nouveau Testament, c'est par un texte de l'Ancien. Il montra devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre déchaissée. Alors retournez en Palestine, retournez dans cette terre d'Israël. Voyez l'Annonciation, l'ange qui vient à Nazareth, cette bourgade méprisée, et qui fait son annonce à Marie, cette jeune fille qui consent malgré tout, qui dit son oui à l'ange du Seigneur et qui va se laisser faire par le Seigneur. C'est ça la vraie servante du Seigneur, quelqu'un qui se laisse faire par le Seigneur, non pas quelqu'un qui essaye de faire quelque chose pour le Seigneur. Et voici qu'il naît, et qu'il naît dans une étable, il n'a ni forme ni éclat, dans ce désert de Judée où se trouve Bethléem. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une étable, dans une crèche? Eh bien, pourtant, les bergers, ils sont allés et ils ont trouvé leur grand sauveur. Mais il a été méprisé et délaissé des hommes. Quand vous le voyez dans son enfance, à Nazareth, dans son adolescence, il travaille avec son père, il a comme métier le métier manuel, il est charpentier, il n'étudie pas aux écoles de Jérusalem, il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur. Quand il commence son ministère, eh bien, que fait-il? Il se chargera de toutes les peines, de toutes les souffrances de cette humanité qu'il est venu pour sauver. Et à quel moment est-ce que cette parole s'est réalisée? Est-ce que c'est sur la croix que le Seigneur s'est chargé de nos douleurs et a porté nos maladies? Prenez le chapitre 8 de Matthieu et vous aurez l'interprétation littéral, chapitre 8 de Matthieu, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit sa belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et les servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits
l'Esprit par sa parole et il guérit toutes les maladies, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il y a des sectes qui disent que c'est à la croix que le Seigneur a fait cela. Ici, clairement, il est montré que c'est dans son ministère que le Seigneur est entré en sympathie avec tous ceux qui étaient malades et qu'il a porté leur maladie en leur donnant aussi la guérison. C'est dans son ministère que le Seigneur a manifesté qu'il a été avant tout l'homme de douleur, le plus proche de tous ceux qui étaient dans la peine et dans la souffrance, sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Quand Jésus parlait aux foules, qu'il avait nourri de pain, et qu'il leur disait que ça ne suffisait pas de le suivre pour avoir du pain, mais que cette vie qu'ils avaient vue en lui devait devenir leur vie, qu'ils devaient manger ce pain de vie, et que sa chair devait devenir un aliment, son sang devenir un breuvage, alors les disciples disaient, cette parole est dure, qui peut l'ouïr? Et on s'en allait de lui. Et Jésus dit à Pierre, et vous aussi, vous voulez vous en aller? Oui, plusieurs détournaient le visage du Seigneur. Et pourtant le Seigneur leur expliquait, mais les paroles que je vous dis et qui vous scandalisent, ces paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. La chair ne profite de rien, ne sert de rien. Et il était méprisé. Et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Reprenez les invitations que Jésus recevait et vous verrez quelle estime on lui témoignait. Le pharisien qui s'empressait toujours de manifester son hospitalité à un autre qu'il estimait, bien pour Jésus, aucune estime. On ne lui lave pas les pieds, on n'oint pas sa tête d'huile, on ne lui donne pas le baiser fraternel. Et Jésus souffre de cette manière d'être reçu. Et quand la femme à ses pieds, cette pécheresse, accomplit le service que Simon le pharisien n'a pas fait, le cœur de Jésus se répand en amour pour cette femme. Pour cette femme qui est à ses pieds et qui, au lieu d'employer sa belle chevelure qu'elle pouvait employer autrefois pour attirer les regards, au lieu d'employer ses yeux pour faire des œillades, bien oui, elle pleure, elle emploie tout ce qu'elle avait avant pour séduire, elle le donne au Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. La femme pécheresse transforme, qui au lieu de séduire devient la servante du Seigneur et essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux et les couvre de baisers. Là où il n'était pas estimé. Certainement lui apporter nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Souvenez-vous qu'il a été arrêté, qu'il a été conduit d'abord dans la maison d'Anne et de Caïphe, que là, il y a passé la nuit, qu'il a été battu, frappé de verges, comme il l'avait annoncé à ses disciples. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Vous savez, quand ça devient réel, pour moi, c'était plus un texte d'Ésaïe, c'était vrai pour moi. Je savais qu'il était blessé pour mes transgressions, mais mes transgressions, je les avais montrées dans la nuit. J'avais eu la conviction de péché, je m'étais vu perdu, non pas parce qu'on m'avait dit que j'étais perdu, mais parce que je me suis vu perdu. Et c'était pas parce que je voyais la quantité de mes péchés, j'avais été élevé dans une famille chrétienne, mais c'est quand j'ai réalisé que je n'aimais pas Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, que je n'aimais pas mon prochain comme moi-même, j'ai réalisé que j'étais méchant, méchant, méchant. C'est pas possible. Tu n'aimes pas Dieu. Et c'est tout ce qu'il te demande. Aimer Dieu. Et tu ne l'aimes pas. C'est pas vrai. Tu ne l'aimes pas. Et tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Et c'était ça, ma première conviction profonde de péché. Et j'ai vu que j'étais un homme perdu parce que quand on n'aime pas, un jour on peut tuer. Quand on n'aime pas, un jour on peut voler. Quand on n'aime pas, un jour on peut commettre adultère. Tout ça, je l'avais en germe. Je n'ai pas tué, mais j'ai convoité. Je n'ai pas volé, oui, mais j'ai désiré le bien d'autrui. Je n'ai pas tué, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas commis adultère, mais pour autant, je ne suis pas un saint. Je connais mes pensées. J'aurais honte qu'elles soient dévoilées à tous. Et je me disais, mais je voudrais être sans pieds sous terre. On croit que je suis un petit saint. C'est pas vrai. Et je me suis dit, mais tu vas être devant Dieu, devant ce Dieu trois fois saint, les anges se couvrent la face en disant saint, 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 et l'Éternel des armées, ces anges si purs de la vision d'Ésaïe. Et puis moi, je pense que je pourrais aller comme ça, hein, tu vois, je suis là. Vous rendez compte? Vous rendez-vous compte que Dieu qui voit tout, toutes les turpitudes de notre cœur, qui nous a si souvent dit, mais venez, 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 plaidons ensemble, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Oh, ils sont roses. Hein, c'est ça. C'est seulement rose. Il faut qu'ils vous apparaissent rouges comme le cramoisi. C'est voyant. Est-ce que vos péchés intérieurs sont devenus voyants? C'est là qu'on apprend qu'on est malade. Puis alors qu'on a besoin d'un médecin. Puis qu'on sait se soigner. Ils deviendront blancs comme la neige. Sont rouges comme l'écarlate. Donc c'était pour moi. Il a été blessé pour nos transgressions. C'était pour mes transgressions. J'avais transgressé le plus grand commandement de la loi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras. Hein? Donc j'étais le plus grand des pécheurs, j'ai pas besoin d'une autre conviction. Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras. Le plus grand des péchés, c'est de ne pas aimer. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix dit, nous serons tous examinés sur l'amour à la fin de la vie. Et c'est vrai, ça sera vite fait. Nous avons tous été errants comme des brebis, mais il a été affligé, il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais je savais que je méritais le châtiment. Et il aurait dû tomber sur qui? Sur moi. Mais sa colère s'est détournée et le châtiment est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais je peux l'approprier que je suis guéri. En ce 12 décembre 1981, est-ce qu'il y a une âme parmi vous qui dira « Cette fois, c'est pour moi. » Je suis guéri. C'est vrai, c'est pour moi. Quand on a lu ce mot que j'aime tellement dans Ésaïe, c'est vrai. On t'a conduit, mais c'est vrai. Je ne sais comment la lumière éclaira tout mon cœur, comment je compris ma misère, mais reçu mon sauveur, puis tout à coup, mais je sais qu'en lui, c'est la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. C'est ses souvenirs dont on se rappelle toujours. Ils sont saints. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Nous avons tous été errants comme des brebis, c'était bien aussi ma vie, errante. J'avais pas la paix, oh, je connaissais toutes ces choses, mais je n'étais pas tranquille. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé, affligé, il n'a pas ouvert sa bouche. Alors on relit les évangiles, la fin des quatre évangiles. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Et il n'a pas ouvert sa bouche quand on voit son arrestation à Gethsémané. Ce jardin que je voyais il y a un mois et demi encore, là, tout proche. Et puis ce chemin qu'il a suivi comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Puis ensuite, c'est cette condamnation, c'est ce jugement. Et puis cette foule qui passe et qui repasse devant la croix et qui, influencée par les chefs du peuple, dit « Mais il a sauvé les autres, il n'est pas capable de sauver lui-même. Qu'il le délivre, puisqu'il tient à lui. Il a dit que Dieu était son Père. Il est ôté par l'angoisse et par le jugement. Et sa génération qui la racontera. » Eh bien oui, quelle est la génération du Seigneur? Par la grâce de Dieu, je suis de la génération du Seigneur. Que vous l'êtes. Et nous avons quelque chose à raconter. Nous sommes maintenant sa postérité. La postérité du Seigneur. Oh, mes amis, le nombre de ceux qui ont trouvé la vie dans sa mort, qu'il est grand. Mais la vie, nous ne la trouvons que dans la mort de Jésus, puissions-nous le comprendre. Il est grand, le nombre de ceux qui ont trouvé la vie éternelle dans la mort de Jésus. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs, la vie éternelle. La vie éternelle, elle est dans cette mort de Jésus. Pour que j'aie la vie éternelle, il faut que j'accepte de le suivre. Et si je le suis, il me conduit à la croix. Quand il meurt, je meurs en lui. Et c'est ainsi que je suis débarrassé de moi-même, que c'en est fini avec moi-même. Et quand il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Il est ôté de l'angoisse et du jugement, sa génération qui la racontera, car il a été retranché de la terre des vivants. Quand je me dis cela, pour mon salut, il a été retranché de la terre des vivants. Le seul qui devait vivre a été retranché. Celui qui disait, mais qui d'entre vous me convaincra de péché? Lui devait vivre, puis il est mort pour moi. Alors quand vous avez cette révélation, que si vous, vous vivez, c'est parce qu'il est mort pour vous, bien comme le dit saint Paul dans les Corinthiens. Nous avons jugé ceci. C'est quelque chose de définitif. Si on est mort pour tous, tous donc sont morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ça, c'est jugé. On ne revient plus sur cette question. Il est mort pour moi. Alors, maintenant, pour qui est-ce que je peux vivre? Pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Je sais que maintenant il est ressuscité. Je sais que je puis le suivre et le servir dans sa résurrection. Alors, ma vie lui appartient. Et regardez la précision des textes, verset 9. On lui donna son sépulcre avec les méchants. Donc c'est pour moi qu'il a été frappé. Je m'en souviendrai toujours, jusqu'à mon dernier moment. C'est pour moi, Seigneur, que tu as été frappé. Pour que moi, je ne sois pas frappé. Et vous ne serez pas frappé. Si vous acceptez Jésus comme Seigneur, vous ne serez pas frappé. Si vous acceptez Jésus comme Sauveur, vous ne serez pas jugé. Examinez quant à vos œuvres, c'est une autre affaire, mais vous ne serez pas jugé quant à vos âmes, vous avez un plein salut. Et c'est plus que cela, c'est plus que cela, et c'est cela que nous devons comprendre, et c'est à cela que nous devons arriver quand on saisit la parole prophétique. Notre vie perdue, notre vie passée, notre vie personnelle, celle que je constate, Dieu ne la voit plus. J'ai disparu de l'horizon de Dieu en tant que pécheur. Vous avez disparu en tant que pécheresse, en tant que pécheur de l'horizon de Dieu. Vous êtes enseveli dans la mort de Jésus. Et Jésus ressuscité vous êtes en lui, dans la gloire du Père. Et quand le Père vous voit, savez-vous comment il vous voit? Ce que je dis, dans les perfections de son Fils. Il ne vous voit jamais comme vous vous voyez et comme moi je me vois. Il me voit dans les perfections de son Fils. Et c'est ça la vie de la foi. C'est ce qui est le plus difficile, parce que c'est contraire à ce qu'on voit. Hein? Mais on ne marche pas par la vue. Il se tient pour nous devant la face de Dieu. Et nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé. C'est dans les perfections de son Fils que je suis vu par Dieu. Le Dieu trois fois saint me voit, non pas tel que moi je me vois, il me voit tel que Jésus est. Et puis moi, alors, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à croire cela éperdument. Et quand je me vois misérable, je dis, comme c'était vrai, je devais disparaître. Nous portons sur nous-mêmes